ce week-end, c'est le, enfin demain, c'est le grand jour dans la tradition zen qui s'appelle Rohatsu, qui est le, en fait le, on marque le jour où on considère que c'est l'éveil du Bouddha. Dans la tradition zen, dans d'autres traditions, c'est pas ce jour-là. Et souvent, il y a des retraites qui durent une semaine et qui terminent le 8. Et souvent, chaque jour, le temps de méditation est allongé jusqu'à... Ça peut être toute la nuit, le 8. Je crois que Joa, tu as fait un truc comme ça, c'était l'année dernière ou...
Il y a 2 ans, je crois déjà.
Mais dans tous les centres et les groupes zen, il y a souvent une retraite qui, autour de cette date.
Qui est toujours un peu en automne
C'est toujours le 8 décembre.
Oui, alors pour les
Et pour les Tibétains et d'autres traditions, ils fêtent ça au mois de mai. Et ils fêtent à la fois la naissance, la mort et l'éveil du Bouddha tout en... et en fait, le jour, c'est traditionnellement, je crois que c'est le 8e jour du 12e mois lunaire ou un truc comme ça. Et donc, le Zen a décidé que c'était le 8 décembre chaque année. Alors à Coimbra au Portugal il y a 15 jours on l'avait déjà fait. Je me suis dit que bon, c'était pas le 8 décembre mais on allait faire comme si. Donc on a tout notre week-end était consacré à cette idée de rester avec qu'est-ce que c'est l'éveil du Bouddha, qu'est-ce qu'on marque, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie. Pourquoi on fait ça, etc. Je ne me souviens pas du tout du talk. Dans le cercle de paroles que Joa avait introduit, il avait donné comme thème quelque chose de cet ordre. Qu'est-ce que c'est dans ta vie ou, ouais, tout comme ça. Et finalement, ce n'était pas beaucoup différent que d'autres retraites qu'on fait. Parce que c'est toujours plus ou moins ça le sujet. Mais puisque demain, c'est... Et nous, on avait prévu de faire ça aussi, de fêter ça demain. Mais il y avait d'autres circonstances qui ont fait que non. Donc on le fait aujourd'hui, uniquement. Oui, elle est d'accord. Ou pas. Et donc, je pensais à ça encore cette semaine, et dans le contexte aussi des circonstances actuelles avec la grève et comment ça a changé nos habitudes, et puisque nos habitudes sont changées. Puisque mes habitudes étaient changées, j'expérimentais les choses autrement. Même ce matin, venant en voiture, je ne viens jamais en voiture ici pour une retraite, pour une journée d'assises. J'ai vécu le trajet pour venir ici tout à fait autrement. Que quand je prends la ligne 9, je connais par cœur, je connais toutes les stations... Je sais quand je descends de Charonne, le chemin que je prends, c'est toujours le même. Les mêmes boutiques, souvent les mêmes gens dans la rue. Le soir, quand je rentre, c'est toujours les mêmes gens qui sont là avec leurs chiens à sortir. Je commence à reconnaître un peu les chiens. Toujours les mêmes mecs qui sont devant le café au coin. Mais ce matin, c'était complètement autre. Ça se trouve que le week-end dernier, j'ai assisté à un masterclass du cinéaste Richard Linklater. Est-ce que vous connaissez qui c'est, Richard Linklater?
Qui fait des trucs qui durent le temps de la vie des gens.
Voilà, il a fait un film Boyhood qui, en fait, il a suivi les mêmes acteurs qui jouaient leur même rôle pendant 12 ans, effectivement. Donc, les enfants sont petits, les parents sont pas petits, mais pas... jeunes, et on les voit à travers aussi. Il y a des gens qui l'ont vu, ce... Non. Il a fait aussi ses films
Before Midnight.
Before Sunrise.
Ah, ok.
Before Sunset et Before Midnight. Ça ne dit rien, non? Où c'est, le premier, Before Sunrise, c'est des deux personnages de jeunes qui se rencontrent dans un train. Et ils descendent à Vienne parce qu'ils ont des connexions, chacun à prendre dans de différentes directions. Et ils décident de juste rester à Vienne. Ils ont les trains le lendemain matin. Et donc, ils ne font rien. Enfin, ils marchent à travers Vienne, ils vont dans un restaurant, ils voient. On boit un verre, il va dans un musée, il marche au bord de la rivière, il se balade à travers Vienne et il discute. Before Sunset, c'est à Paris, hein, je crois. Ouais. Et là, c'est... Alors, dans Before Sunrise, ils avaient donné rendez-vous, ils ont dit l'année prochaine, le même jour, on se retrouve sur le quai à Vienne. Pareil. Et c'était dans les années 90, donc il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça. Et donc, on ne sait pas. Ils se quittent et on ne sait pas. Before Sunset, c'est je ne sais pas combien d'années plus tard. Peut-être 10 ans plus tard. Et un des personnages est devenu romancier, le mec, et il a écrit un roman dans lequel il y a une histoire comme ça qui se passe. Et il est à Paris pour présenter ça à Shakespeare & Company. Et la femme, qui est française, lui il est américain, elle est française, arrive dans la librairie et assiste à son truc et va le voir après. On apprend que ils n'ont pas fait le rendez-vous il y a 10 ans. Pour différentes raisons. On ne sait pas très bien pourquoi chacun n'est pas venu, mais ni l'un ni l'autre est venu. Mais on n'est même pas sûr de ça exactement. Et même eux, ils sont... C'est un peu ambigu de ce qui s'est passé vraiment pendant cette nuit à Vienne. Mais ce qui était intéressant, c'est une sorte de mise en abîme, parce que le spectateur qui a vu le film a vu ce qui s'est passé à Vienne. On le pense, mais peut-être qu'il y avait des choses qu'on n'a pas vues. Donc la question, c'est est-ce qu'ils se sont couchés ensemble ou non pendant cette nuit à Vienne? Et il y en a un qui pense que oui et l'autre, c'est pas sûr. Enfin, c'est un peu ambigu. Et puis, bon, il y a plein de choses qui se passent, mais cette fois-ci, c'est à Paris. Et c'est grosso modo la même chose. Ils passent leur temps à marcher, à discuter. Bon, dans le restaurant, dans un café, et puis Before Midnight, c'est encore 10 ans plus tard, et cette fois-ci, ils sont en vacances avec leurs enfants respectifs, famille composée, parce que entre-temps, donc, on apprend qu'ils se sont mis ensemble et chacun avait déjà des enfants, je crois. Oui, je crois qu'ils avaient des enfants. Enfin, bref, au moins un avait des enfants. Et là, c'est pareil, ils sont en Grèce, mais ils parlent, etc. Mais là, ils commencent à voir ce qu'ils n'ont pas en commun. Enfin, c'est moins... Ils ont 45 ans, je crois, et plus du tout la jeunesse que c'était, etc. Il a fait un de ses premiers films qui était Dazed and Confused. Quelqu'un a vu ça? Non? Tu l'as vu?
Oui.
Qui se déroule l'été 76. Ça a été fait début des années 90, mais c'était l'été 76. Les derniers jours d'école en 76. Des collégiens et des lycéens dans une petite ville au milieu de nulle part en Texas. C'est son histoire à lui, plus ou moins. Et c'est ce qui se déroule ce soir-là, après la fin de l'école, avant l'été, mais après la fin de l'école. Dans tous ces films, rien ne se passe, en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment une histoire. Et donc, dans ce masterclass, il a raconté que pour ce premier film, il avait déjà fait un autre film, mais c'était un tout petit film où le budget était $25,000. Et pour ce film Dazed and Confused, quelqu'un dans un producteur à Hollywood avait vu son premier film et l'avait bien aimé. Et donc, sa boîte de production lui donnait $6 millions. Pour lui, c'était énorme pour faire un film. Et il dit qu'il est allé à Hollywood pour discuter avec les producteurs. Il a parlé de la musique qu'il allait avoir dans le film, les personnages, les modes, comment ils allaient être habillés, les voitures qu'il allait avoir, etc., etc. Mais il n'a rien raconté sur l'histoire. Et le producteur n'a pas demandé. Et donc, il a fait son film, et quand de temps en temps les producteurs venaient pour voir, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire. Enfin, il y en a, mais pas comme on pense. Ils n'étaient pas du tout contents. Mais ils avaient déjà donné leurs 6 millions. Et en fait, le film était un grand succès. Malheureusement, ces films n'ont pas été beaucoup distribués en France. À part les Before et Boyhood, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Fast Food Nation, je crois, qui a été distribué en France.
And Everybody Wants Some.
Everybody Wants Some. Mais ça, c'était après,
après
les Before et Boyhood. Oui. Mais tous ces films, et donc c'est une rétrospective à Beaubourg en ce moment, sur tous ces films, et il y a un expo sur lui, je vous encourage, parce que c'est très zen. Le titre, c'est Cinéaste du moment, parce que tout se passe au temps présent. Et il n'y a rien qui se passe, en fait. Et il raconte que, il a raconté dans le masterclass, que sa fille joue une des enfants dans le film Boyhood. Et elle voulait y être quand elle avait, je sais pas, 8-9 ans, hein, elle était petite, 7-8 ans, quoi. Et elle était contente de le faire. Mais je crois qu'elle avait, ouais, peut-être elle avait 7 ans. Oui, je crois. Et elle était contente de le faire. Et donc chaque année, tous les personnages étaient réunis, tous les acteurs, et ils refaisaient les scènes, etc. Mais au fur et à mesure que ça avançait, quand elle était ado, elle ne voulait plus. Elle n'aimait pas du tout, elle ne voulait pas être mise en scène, elle ne voulait pas travailler avec son père, elle ne voulait plus du tout faire ça. Et donc elle a demandé à son père de tuer son personnage. Pour qu'elle ne soit plus dans le film. D'abord, elle a dit, est-ce que je peux plus y être? Et Biden, il a dit, ben non, c'est... Non, le personnage est là, tu es la sœur dans le film, etc. Et elle a dit, bon, bah, est-ce que tu peux tuer le personnage? Elle meurt, donc elle disparaît. Et il avait dit, ben non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe généralement dans la vie. Et il a dit, dans ma vie, j'avais deux sœurs, personne n'est mort. Bon, évidemment, ça peut arriver, mais son prémisse du film, c'était juste la vie ordinaire. Et je me souviens même d'une scène dans ce film où il y a des garçons qui sont des jeunes ados, je ne sais pas, 11-12 ans, qui sont dans une maison abandonnée ou un truc comme ça. Ils jouent, quelqu'un a un couteau, ils jouent avec ça. Ça vous dit quelque chose?
Oui, je me souviens de ça.
Et je me souviens même quand je voyais cette scène, je me suis dit, oh là là,
exactement.
Quelque chose de
là,
terrible.
C'est là que ça va se passer.
Voilà, exactement. Parce qu'on attendait tout le film, il n'y avait rien qui se passait. Et donc, on s'est dit, oh là là. Il va avoir un accident, ces petits cons, il jette le couteau comme ça, quelqu'un va le prendre en pleine gueule, je sais pas. Mais en fait, non. Et je me souviens vraiment de ce moment-là, et je dis, bah, et c'est là où j'ai compris, je dis, bah oui, c'est ça. Il ne se passe rien, en fait. Et puis, et en même temps, tout se passe. Les parents divorcent, les enfants grandissent, il y a un beau-père tyrannique qui est alcoolique, qui rase la tête du pauvre petit qui avait des cheveux longs.
C'est dans la télé il y a un mois à peu près.
C'est vrai?
Il me semble. Je ne sais pas si j'ai tenu tout le long, mais ça, c'est...
Et on vit vraiment la vie de ces personnages, quoi. Et l'actrice, d'ailleurs, Patricia Arquette, avait beaucoup apprécié parce que pour quelqu'un... Elle a, je ne sais pas quel âge elle a maintenant, Patricia Arquette. Elle a peut-être 55 ans maintenant. Je ne sais pas. La cinquantaine. Et donc, personne ne veut lui donner des rôles, enfin. Pour les femmes, après 35 ans, bah, c'est fini, hein, on s'en fout maintenant. Et elle, voilà. Elle a continué pendant les 12 ans, et on l'a vu, c'est son merci, hein, pour des femmes. À travers ces âges-là, je ne sais pas quel... Enfin, pour tout le monde. Mais pour les actrices, d'habitude, on est... C'est des petites jeunes qu'on met en scène. Bref. Donc, tout ça pour dire que... quand on dit, ok, qu'est-ce que c'est l'éveil dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la... toute cette pratique? Ben c'est ça. C'est cet instant. Qu'est-ce qu'il y a à cet instant? Et comment on choisit de vivre ça? Et je voulais mettre un autre film avec ça, parce que bon, je suis très branchée au cinéma en fait. Qui est malheureusement en France, ce n'est que sur Netflix, c'est The Irishman, de Scorsese.
Ah, oui, avant, c'est bien.
Personne n'a vu. Alors là, c'est intéressant. Enfin, bon, c'est très très bien fait, c'est Scorsese, et les acteurs phénoménaux. Mais on les voit aussi à travers des âges. Et par contre, il était obligé d'utiliser une technique. Des effets spéciaux parce qu'il ne voulait pas qu'un autre acteur joue le personnage de De Niro jeune. Et donc, parce que De Niro n'est pas jeune. Et il n'a pas commencé à filmer ça dans les années 70. Et en fait, le film passe des années 50 jusqu'à. Je ne sais pas compter, je sais pas, peut-être des années 90, je ne sais pas. Et donc, on suit les personnages. Mais on commence avec le personnage de De Niro, vieux, dans un EHPAD, dans une chaise roulante, et qui parle. Et ce n'est pas clair s'il parle à lui-même ou s'il parle à quelqu'un d'autre. Mais il parle. Et donc, il raconte quelque chose. Et puis, on va voir des longues séquences où on voit ce qu'il a commencé à raconter. Et puis, on va revenir... Grosso modo, tous les personnages, bon, c'est des gangsters terribles, la plupart, et leur famille. Et tous les gangsters, bah, ils finissent dans les chaises roulantes, dans les EHPAD, en prison, à l'hôpital, cancer de prostate, AVC, tué dans un engrenage pas possible, etc. Et on a un qui est vraiment un des plus terribles, qui en prison dit à un autre, il y a quelqu'un qui pousse dans sa chaise roulante, et l'autre lui dit, mais tu vas où? Il dit, je vais à l'église. Il y a une église dans la prison. Et l'autre dit, mais tu vas à l'église? Et il dit, oui, tu verras. Et donc, il va à l'église, et puis le personnage de De Niro dit, il est allé à l'église, puis il est allé à l'hôpital, puis il est allé au cimetière. Et on se finit par se dire, tout ça pour ça. Je veux dire, ils ont choisi de vivre leur vie d'une façon, d'une violence, d'une cupidité, de vivre dans la souffrance et créer la souffrance pour finir comme tout le monde, dans une chaise roulante, à l'EHPAD, à l'hôpital, à un cimetière. Et c'est vraiment une méditation sur... Bon, je pense qu'on peut voir plein de choses dans ce film, mais ça m'avait fait penser au truc de Linklater, dans le sens que dans Linklater, on ne sait pas ce qui va se passer. On se dit, ok, c'est juste maintenant. Mais c'est ça qui se passe maintenant. Et on ne sait pas ce qui va se passer après le coucher de soleil, après le lever de soleil, après minuit, le lendemain de le dernier jour d'école. Dans ce film, le dernier jour d'école, la dernière scène, c'est ils sont dans une voiture et c'est l'aube, parce qu'ils ont fait la fête, etc., toute la nuit, dans une voiture, sur une route au Texas, donc il n'y a personne sur la route. Mais la route, ce n'est pas juste plate comme devant comme ça, ça monte légèrement, et la dernière scène, c'est on voit que cette route monte, mais on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est le lever de soleil. Et c'est formidable, parce que, bon, on ne sait pas. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi maintenant? Et dans ce film de Scorsese, c'est, on est laissé à la fin. Enfin, moi, j'étais laissé à la fin de tout ça pour ça. Alors, pourquoi choisir de vivre d'une façon si violente et si ignorante? Parce qu'il y a un des personnages qui est un tueur. Tueur à gage, on dit.
Mm-hmm.
Tueur à gage, qui, c'est ce qu'il fait, quoi. Et le nombre de meurtres, et à la fin, un prêtre lui demande, mais parce qu'il demande de voir le prêtre, et le prêtre lui demande, mais qu'est-ce que tu sens vis-à-vis de tout ça, ce que tu dis? C'est pas clair s'il avoue tous les meurtres qu'il a fait, mais visiblement il a un peu de remords, mais enfin, on a l'impression, mais apparemment il ne sent rien. Ou est-ce qu'il avait vraiment bloqué pour ne pas sentir ça, ou c'est un psychopathe, je sais pas. Mais... il semblerait que la seule possibilité de vivre comme ça, c'est d'être coupé de ce qui est. Parce que tu es des gens avec qui tu es lié, que tu connais bien, que tu connais les familles, avec qui tu as travaillé, ou même pas. Les gens que tu ne connais pas vraiment, mais tu es quelqu'un, c'est quand même fort, quand même. Alors là, c'est l'extrême de comment on choisit de vivre sa vie. Mais... Et nous? Donc, comment choisir de... Ce qui est intéressant dans les films de Linklater, c'est que les personnages sont toujours... C'est très... On l'accuse d'être très philosophique, etc. De ces films. Très intello. Mais en fait, c'est juste des personnes qui se posent des questions et réfléchissent. Qu'est-ce qu'ils aimeraient dans la vie? Comment ils voient la vie? Il y a toujours beaucoup d'histoires de rêves dans ces films. Des gens qui racontent leurs rêves, des gens qui disent, mais est-ce que la vie, est-ce que je suis en train de vivre dans un rêve? Et le rêve que j'avais était, en fait, j'étais éveillée, et maintenant je suis dans le rêve que j'ai fait. C'est des espèces de mises en abîme, souvent, dans les films de Linklater. Et donc, la question qu'on peut avoir aussi après, avec l'histoire de Bouddha, c'est comment on veut vivre? Qu'est-ce que c'est la vie? Et qu'est-ce que je veux faire? Sachant que je vais finir en chaise roulante, à l'hôpital, à un cimetière. Et que rien va rester. Et que c'est la même histoire pour nous tous. Donc, comment on choisit de vivre? Alors, on a cette pratique qui nous donne cette structure dans laquelle on s'assoit. Et on peut avoir l'expérience de quand on reste et on laisse les choses, on ne s'engage pas dans les histoires dans nos têtes. Quand on, un peu comme Linklater, il n'y a pas d'histoire. Il y a juste ce qui est. Quand on laisse juste laisser les choses être. Je voyais ce matin, je me dis, mais comment ça se passe alors pour moi? Je vois pendant les trois périodes ce matin. L'histoire va s'enclencher, les pensées, les trucs, je me raconte des trucs, je réfléchis à des trucs, des choses. Je me projette à l'avenir, je pense à ce que j'ai fait hier, je pense à, ah, j'ai mal au cou, etc. Et puis, quand je me rends compte de ça, je peux dire, ok, c'est tout ça, c'est ce qui se passe, mais c'est comme si je peux prendre un pas en arrière et ne pas rentrer dans cette histoire, de ne pas le nourrir, disons. Et quand je fais ça, mon conscience s'élargit. Je ne suis pas juste focalisée sur ce truc-là. Et je me rends compte qu'il y a que des gens autour. Qu'il y avait d'autres gens là. Qu'il y a le chat qui est là. Qu'il y a une machine qui fait un bruit. Qu'il y a des voitures. Il y a quelqu'un avec un téléphone portable qui passe. C'est innombrable les choses dont on vient consciente quand on devient consciente qu'on n'est pas vraiment avec des, comment on dit, des trucs qu'on met sur
les
ouais.
Les œillères.
Œillères, c'est ça qu'on appelle pour les chevaux. Les
chevaux.
Œillères. Pardon.
Okay. Pour l'œil, c'est ça. Oui. Parce que quand on est complètement pris par cette histoire, focalisée sur mon histoire de ce que j'ai fait hier ou ce que je vais faire demain. Ah oui, mais des trucs complètement, mais sans conséquences en fait, sur lesquels je vais être occupée. Si je dis, ah non, ok, bon, ça se passe, mais j'enlève les œillères, alors là, je vois d'autres choses. Je deviens consciente d'autres choses. Quand tu fais les quinines, je le fais, je vois. Le robinet qui goutte, 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 goutte. Si je suis complètement pris dans mon truc, je ne vais pas voir ce robinet. On peut dire, on s'en fout si on voit le robinet. Ce n'est pas tellement que je vois le robinet, c'est que j'élargis et je ne suis pas fixée juste sur moi et mon petite histoire. Et quand j'élargis, alors, yep, je vois les choses telles qu'elles sont, plus largement, et je deviens plus libre aussi parce que je ne suis pas limitée à juste cette histoire. Oui, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, oui, c'était pénible, le mec dans le bus jeudi qui refusait de descendre et qui empêchait la porte de fermer, et donc le bus ne pouvait pas bouger, donc on était tous coincés parce que ce connard ne voulait pas descendre le bus parce que la porte était complètement débile. Je n'ai pas pensé à ça ce matin dans ma méditation, mais j'aurais pu. J'aurais pu. Et ça crée toute une tension dans le bus, et donc les gens s'engueulaient parce que tout le monde était en retard, et le bus ne bougeait pas, le conducteur n'annonçait rien, et le mec refusait de descendre parce qu'il voulait rester dans le bus, et donc bon. Je peux très facilement rester avec ce truc. C'est très juteux. C'est comme un chewing. C'est... Ah oui, c'est incroyable. C'est tellement fascinant cette histoire. Oui. Rentrer dans la psychologie du mec qui refusait de descendre, et la dame qui gueulait, et l'autre qui philosophie, qui était très philosophe, le bébé qui hurlait, et je comprenais complètement le bébé qui hurlait dans sa poussette parce qu'il était le pauvre dans sa poussette, et tous ces gens autour, et ils sentent l'attention, ils sentent la réaction des gens, sa mère qui s'occupe pas du tout de lui probablement parce qu'elle peut pas, elle est là, hein. Bon, je suis pas obligée de rester figée sur ça, et c'est ce que le Bouddha a vu, c'est ce qu'il a, il a vu que c'était le fait qu'on reste figé là-dessus, c'est ça qui nous fait souffrir, et qu'il y avait une possibilité de ne pas faire ça. Donc, c'est ça qu'on fait ce week-end. On est tous dans un film de Richard Linklater. Et même son nom, c'est étonnant, Linklater. Et il raconte que dans un entretien, dans un livre à l'expo, que un journaliste.
Ça veut dire un raccord de plus tard ou...
Quoi? Oui, c'est ça. Le lien plus tard. Et donc, un journaliste, lui, pose des questions très profondes sur ce film, etc. Oui, quelle est l'émotion du temps dans cette scène, etc. etc. Et lui, je ne sais pas. Ou la personne demandait qu'est-ce que c'est le lien entre les films, de toute sa filmographie, quel est le lien, etc. Il disait, franchement, je ne sais pas trop. Et le journaliste ne s'est pas rendu compte, mais il a dit, oui, you'll find the link later. Donc c'est étonnant, même son nom, bon, c'est son vrai nom, hein, mais et donc les gens demandaient les questions, est-ce qu'il était, quelqu'un lui a dit qu'il avait lu il y a des années que le premier film Before Sunrise a été inspiré d'un événement véritable dans sa vie. Et qu'il avait vu ça juste une fois, et après, il n'a jamais entendu parler de ça. Et donc, Linklater a dit, oui, c'est vrai. Il dit que ce n'était pas exactement comme ça, mais c'était... il visitait sa sœur, je ne sais pas où, quelque part aux États-Unis, et qui ne vivait pas dans la ville où il habitait. Ils étaient dans un magasin jouet, et il y avait une jeune femme qui travaillait là, avec laquelle il avait sympathisé. Et il savait qu'il partait le lendemain. Et ils se sont sympathisés, et donc il lui a demandé si elle voulait prendre un verre, et ainsi de suite. Et ils se sont échangés des numéros de téléphone pour se voir, parce qu'ils partaient, et en fait, ils ne se sont jamais revus. Et donc, c'était juste ça, l'anecdote. Mais, il a dit que ce qui était, pour lui, le processus qui l'a amené à faire ce film après, c'était Et c'est dans un autre film, il a fait ça aussi. C'est... Et si je l'avais téléphoné, qu'est-ce qui aurait passé? Non.
Si
je lui avais téléphoné,
qu'est-ce
que serait passé? Ça, c'est très compliqué, ça, en français. Je ne sais pas si pour toi aussi, mais... Non.
C'est pas celui-là, mais il y en a
d'autres. C'est
son
oui, c'est ça. Donc, et donc, quand il restait avec cette idée de... Ah oui, quelque chose aurait pu passer. D'autres choses. Mais ce qui l'intéressait, c'était pas tellement ce qui aurait passé, mais l'idée de faire un film sur cette question-là. On ne sait pas ce qui se passe, jamais. Enfin, on ne va jamais savoir. Et parce que, pour lui, il a dit, parce qu'il n'y avait que ça. C'est que ça. Et quand il avait fait le premier film, il n'avait pas le projet de faire le deuxième, ni le troisième. C'est que quelques années plus tard, il a vu Ethan Hawke, qui était l'acteur. Et l'autre, Patricia Arquette, Julie Delphi. Je ne me souviens plus pour quelle raison ils se sont vus. Mais... Et ils étaient tous... Les deux acteurs étaient d'accord. Pensaient qu'il y avait toujours des choses à dire, que les personnages avaient toujours des choses à vivre ensemble, à faire. Et donc il était ok, et donc il en fait. Et puis après le deuxième, pareil, quelques années plus tard.
Il se passe à New York ?
Non. Non. Et pendant le masterclass, il y a un Italien qui était un espèce de cinéphile, mais. Waouh! XXXXX, monsieur qui sait tout, qui se lève et avec son accent italien fait un petit discours et dit « Et j'ai une proposition pour le quatrième volet qui devrait être à Rome. La vie éternelle. Donc c'est parfait. Et c'est la plus belle ville du monde. » Et en plus, chaque jour à Rome, à midi, il y a un canon qui sonne. Je savais pas ça. J'ai jamais entendu ça. Tu savais ça? Non. Il y a un canon qui sonne chaque jour à midi. Et donc, le titre de votre film est « Avant midi
».
Quoi?
Il faut que lui le fasse.
Et donc Luc Leder a bien rigolé, il a dit oui, effectivement, j'ai déjà visité Rome et j'avais envisagé, c'était parmi les villes que j'avais envisagé, mais avant d'aller à Rome, j'étais en Grèce et là c'était ça. Et donc il n'a pas été à Rome. Il n'a pas dit « Non, je ne vais pas faire un quatrième. » Il n'a pas dit « C'est une bonne idée. » C'était juste ça. C'est quoi maintenant? Quand on s'assoit, le temps passe. Mais on va nulle part. Et rien se passe, en fait. On est juste là. Et puis, tout se passe aussi. Ce qui est, en fait, le véritable... disons, c'est pas véritable. C'est que on peut expérimenter la vie comme ça. Si on sait qu'on va terminer dans un EHPAD, dans une chaise roulante, à l'hôpital, à la cimetière, est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux vivre ma vie? Est-ce que je veux vraiment... qu'est-ce que je veux faire vraiment, alors, si je sais ça? Et c'est ça l'idée du Bouddha. C'était ça son... Voilà, c'est beaucoup trop de paroles, mais... Donc, je vous invite à parler aussi.
Tu disais, tu parlais des pensées qui sont... C'est comme un chewing-gum, tu les... Tu les mâchouilles. Et j'ai, ce matin, j'avais forcément des pensées, des trucs qui reviennent. Et je posais la question que tu poses souvent. Qui est fâché, qui est qui. Et du coup, je me disais, mais qui mâchouille ?
Aussi. Oui.
Et si tu mâchouilles pas, et qui n'y a pas, ça fait peur parce que tu dis, mais il y a plus qui. Il n'y a plus.
Bah voilà.
Mais comment tu fonctionnes alors comme ça ?
C'est une bonne question, c'est bien de regarder. Alors si je suis là, et si je suis là, j'ai mon histoire, j'ai mes enfants, j'ai toute ma vie, etc. Et si je regarde véritablement qui suis-je, est-ce que tout ça va disparaître ou ça veut dire quoi tout ça ? C'est une très bonne question. Je suis en train de lire un livre par Mingyur Rinpoche, qui est traduit en français, je crois, pour tout l'amour du monde. Je crois que vous l'aviez là, à un moment.
Tout l'amour.
L'amour du monde. En français, c'est, en anglais, c'est In Love with the World. Et il raconte que quand il était enfant, son père était un grand maître, Tulku Urgun. C'est un grand, grand maître tibétain. Et son père, donc, c'était ce grand maître. Et donc, régulièrement, tous les jours, il allait visiter son père. Et son père lui donnait des enseignements, etc. Et quand il avait vers 11-12 ans, il arrivait, son père lui disait, est-ce que tu es Mingyur Rinpoche? Et donc, lui... Il avait assez étudié, etc. On lui a expliqué qui était, etc. Donc il dit oui. Oui. Et donc son père lui disait, est-ce que tu peux me montrer quelque chose pour prouver que tu sais vraiment qui tu es ? Je ne sais pas si c'était prouvé, mais... Me montrer quoi?
Manifester.
Oui. Can you show me that you are really Mingyur Rinpoche, un truc comme ça. Et bah, il n'arrivait pas. Et donc il commençait à chercher partout. Il avait essayé des trucs traditionnels. Enfin oui, parce qu'on m'avait dit ceci ou cela. Bah oui, je suis là devant toi. Ça ne suffisait pas. Et finalement, donc le livre, c'est son histoire à l'âge de 36 ans, quand il est grand maître, devant il a des monastères partout, des disciples, des attendants, etc. Il part, il disparaît. Il avait envie d'être comme les anciens yogins qui disparaissent dans la nature pour vivre d'une façon anonyme, plonger dans le monde, et donc il disparaît, il part. Et en fait, il est parti pendant 3 ans, je crois, et on ne savait pas où il était. Et le livre, c'est ça, il raconte son histoire pendant les 3 ans. Je suis juste au début, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il est à la gare à Bodh Gaya, il va prendre le train pour disparaître. Mais il dit que sa motivation était parce qu'il voulait. Quoi ?
Répondre à son père ?
Oui. Bien que je pense que son père était mort à ce moment-là. Mais il cherchait toujours. Il avait l'impression qu'il avait besoin de se débarrasser de tout. Quand il part dans le taxi pour aller à la gare, c'est la première fois de sa vie qu'il est tout seul dans une voiture. Il va à la gare, c'est la première fois de sa vie qu'il est tout seul dans un gare. Il avait toujours des attendants. Attendants ou intendants ?
Assistants.
Quoi ? Des assistants. Toujours un lama qui était avec lui, toujours des disciples, etc. Et donc il voulait se débarrasser de tout ça. Parce qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas savoir autrement. Il fallut sortir de tous ses rituels, de toute sa routine, de toute sa vie habituelle pour pouvoir regarder cette question véritablement. Et c'est ce que nous on fait à notre manière quand on fait une retraite. On dit ok, on va sortir de toutes nos habitudes, nos façons de nos interactions avec les autres, nos façons de manger, dormir, s'habiller, bon. Nous, on n'a pas le truc des robes, mais c'est ça l'idée du robe aussi, c'est qu'on quitte nos habits habituels. Tout le monde est pareil. Pour mieux voir. Et c'est l'équivalent aussi d'enlever les œillères. C'est de sortir de nos œillères, de qui on pense qu'on est. Au risque et péril. Donc lui, apparemment dans ce périple, il a failli mourir. Je ne sais pas exactement.
Il était dans la rue.
Quoi ?
Il était dans la rue et
il tombait
gravement malade.
SDF, quoi. Ouais. Tu l'as lu, le livre ?
J'ai vu un entretien de lui.
Ouais.
Il raconte sa période dans la rue.
Ah oui ?
Sans argent, plus rien.
Ouais. Il quitte tout ce qu'il connaît pour vraiment essayer de trouver une réponse à cette question. Aussi des questions de la vie et la mort, parce que dans la tradition tibétaine, il y a beaucoup de méditation sur la mort. Ils vont dans les cimetières, sur les endroits, comment on appelle ça, les chats. Là où on brûle les personnes.
Ah, charnières.
En anglais, c'est char ground.
Oui, c'est ça. Des bûchers.
Ah oui, peut-être des bûchers, oui, peut-être. Au bord du Gange, il y a des. La perte de vue et les corps qui brûlent. Et les Tibétains, ils ont une pratique, une méditation où on va s'asseoir devant ça. Donc, il a fait tout ça. Il a fait toutes ces pratiques très avancées, profondes, etc. Mais c'est pas encore ça, quoi. Les méditations sur l'impermanence, tout va disparaître, on va tous vieillir, on va tous mourir, tout ça. Mais il a l'impression qu'il n'a pas réalisé ça. Donc il part. Et nous, c'est ça, notre retraite. C'est parce qu'il dit que c'est une retraite qu'il fait. Pour une retraite de 3 ans, disparaître. Donc tu dis qu'il a rencontré son père dans la rue ?
Non, j'ai non. pas dit ça. J'ai dit qu'il était dans la rue.
Ah oui, c'est tout.
Il s'est mis en condition d'être SDF.
Ah oui, ok.
Et il est parti avec très peu d'argent.
Oui, il avait très peu. Il avait rien.
Il a fait une nuit, 2 nuits d'hôtel et puis après il avait plus d'argent. Il s'est retrouvé dans la rue.
Et il avait juste un petit sac à dos. Donc. Mais il avait bien préparé son truc. Parce que quelqu'un comme ça, juste disparaître, c'était pas évident. Et donc il a fallu. Donc voilà une réponse possible à ta question, qui n'est pas vraiment une réponse. Mais. La réponse, c'est d'entretenir la question, peut-être.
Moi, je trouve que quand je perds des points de référence, des points de repère, mon ego devient encore plus que jamais. Enfin, je le fais pas exprès ou je le fais exprès. Je ne vais pas me trouver dans une routine et tout d'un coup, au lieu d'être ouverte aux choses nouvelles, je suis complètement flippée dedans, en train de. Oui, mais je ne trouve pas mon doudou, grosso modo.
Oui. Ça peut être une étape. Et est-ce que si on peut juste rester avec ça, et ça aussi va s'épuiser.
Quand?
Je ne peux pas te dire.
June 25th.
What year?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Je ne sais pas. Mais je dis que c'est une étape. Si on est une personne avec un psyché équilibré.
Oui, mais on peut se poser la question c'est... quand ça commence à râler dedans.
Oui, mais bon, je dirais qu'on a eu cette expérience à Coimbra avec quelqu'un qui était vraiment pas bien, hein, la femme-là. Et malheureusement, c'était dans la dernière heure avant la fin, quand je lis mon entretien, où elle m'annonce comme ça qu'elle est schizophrène et qu'elle est suivie par un psychiatre et qu'elle prend des médicaments. Alors là, ça change tout. Ça explique, soudain, on avait une réalisation de pourquoi elle avait ce comportement tellement bizarre, quoi. Et je l'avais dit, non, les méditations, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon. Je recommande pas. Elle était fâchée quand je lui ai dit ça, elle était très en colère. Mais parce que là, c'est dangereux. Et je m'en voulais de ne pas rendre compte de ça avant, parce que justement, quelqu'un comme ça qui n'a pas de point de référence. Pour elle, quand je lui ai dit ça, pour elle, elle dit « Ah ben, moi, c'est comme ça tous les jours. Je sais très bien ça, de ne pas avoir de point de référence. Ben, c'est comme ça tout le temps pour moi. » Je dis « Je lis les choses sur la réalité. C'est pas la réalité absolue, je me souviens pas ce que c'était, mais un truc qu'on raconte un peu comme ça dans les enseignements. » Elle disait « Ben, moi, je sais. » Parce que
l'absence de moi.
Oui, ça. L'absence de moi, c'était un truc comme ça. Oui, c'est ça. Ben, pour moi, c'est normal. C'est comme ça tout le temps. Et non, je dis, bah, justement, non. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de faire cette pratique. Parle avec ton psychiatre. Elle ne voulait pas parler avec son psychiatre. Parce que je pense qu'elle savait que son psychiatre allait lui dire, non, ne fais pas ça. Mais bon. Donc, si tu es une personne, entre guillemets, relativement, je ne vais pas dire normale, parce qu'il n'y a pas de normal, mais équilibrée, c'est ok.
Donc, de toute manière, bon, il y a des phases de ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des paliers de ça. Il y a un moment où c'est vraiment, l'ego est fortifié dans tout son machinement, là. Et puis, bon, après, ça passe quand même. Enfin, tout au moins dans mon cas.
Oui. Et de ne pas rentrer dedans, c'est-à-dire que de ne pas... C'est juste de le voir comme des autres phénomènes qui se manifestent, quoi. Bien que c'est pas facile, ça, de ne pas rentrer dedans.
Ça demande une acceptation de soi qui est costaud.
Oui. Et de tout ce que ça va, donc... tout ce qui s'écoule de cette... Non, c'est cool.
Non.
Découle. Tout ce qui découle de cette histoire qu'on raconte. Donc, la colère qu'on peut sentir, la peur qu'on peut sentir, les associations qu'on a avec ça. Ça va me rappeler ma mère. Oui, c'est pas évident. Mais tout ça, c'est une expérience. C'est tout ça, c'est le matériel pour cette pratique, quoi. C'est comme est-ce qu'on peut vivre toute cette... Bon, la plupart, vous avez des vélos, donc c'est pas un problème, les histoires de transport, mais pour nous qui d'autres qui ont des problèmes, est-ce qu'on peut vivre ça comme une expérience, une aventure presque, dans le sens que je me souviens très bien en 95 quand c'était l'enfer. Je sais pas si d'autres. Tu te souviens de 95?
Oui, ouais. Je travaillais à Versailles.
Ah oui, l'enfer. Ouais. Et moi j'étais enceinte comme ça. Et ma fille avait, Morgan avait, je crois, 6 ans, 6 ou 7 ans. Et il fallait chaque week-end, enfin le week-end, il fallait l'amener chez son père. parce qu'on avait le garde, enfin le week-end alterné. Et il habitait en fin fond du 15e. Et donc d'aller de Montreuil à la fin fond du 15e, en voiture, mais c'était infernal. Mais j'ai eu une expérience très forte qui était, j'étais dans une phase où j'avais quitté Paris pour vivre à Montreuil et j'étais très très triste parce que j'adorais mon appartement et mon quartier à Paris. Et j'avais tout lâché ça et j'étais parisienne et donc vivre l'autre côté de la périph', alors là, en plus Montreuil à cette époque, c'était glauque.
C'était pas bien gay.
Et j'étais très triste avec tout ça. Et donc ce que j'avais fait, c'est que je n'allais plus à Paris dans mon quartier, ancien quartier, parce que ça me faisait tellement triste. Et je ne voulais pas savoir. Mais là, on était obligé, parce que pour éviter les embouteillages, etc., de passer par là. Et j'ai cette expérience-là, d'être obligé de passer par là, d'être dans les embouteillages, de ne pas pouvoir fuir, de passer par d'autres quartiers, etc. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment lâché un attachement à ce lieu, à cette façon de vivre que j'avais, et que je, soudain, tout devient mon quartier. Je pouvais être chez moi partout, parce que j'avais lâché, j'avais enlevé les œillères de cette rue, la rue Saint-Claude, dans le Marais, etc. Cet appartement. Et donc, en fait, j'ai un assez bon souvenir de ces grèves en 1995, bien que c'était l'enfer. C'était très, très dur. Et je ne sais même pas combien de temps ça a duré. C'était un mois.
Longtemps.
Oui, c'était longtemps.
On s'en souvient comme ça, c'est que ça s'est installé.
Oui, c'est ça.
On s'est installé dans une vie qui n'avait plus rien à voir. On faisait du covoiturage.
Du stop. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient du stop. C'était étonnant.
Il faisait froid.
Il faisait très froid. Léger, je disais à mon fils là, je dis, tu peux faire du stop, écoute. Et, maman, mais personne ne fait du stop. Je dis, mais écoute, en 95, tout le monde faisait du stop.
Pas tout de suite, pas tout de suite. Après, on commence à sortir.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est le covoiturage maintenant qui renforce le truc.
Oui.
T'as plein d'applis de partage de.
Et c'est la sensation, parce que 95, on sait qu'il y a eu une fin. Mais c'est, pour moi, c'est la sensation qu'on ne sait pas quand ça va se terminer.
Et on ne savait pas en 95.
Non, on ne savait pas en 95.
Ouais.
Si c'est en galère pendant une semaine, bon, ça devient un peu rigolo.
Oui.
Quoi.
Oui. Ouais. Là, on dit, ok, c'est jusqu'à lundi, mais j'ai des rendez-vous plus tard dans la semaine, j'espère qu'ils vont... Ah oui, la vie. S'écoule sans cesse. À chaque instant. C'est... Et c'est ça l'exemple de Bouddha, donc c'est. Ou le chant qu'on fait qui est « c'est notre vie », le cours de nos jours. Ça pouvait être le chanson, le bande-son des films de Linklater, quoi. C'est notre vie, le cours de nos jours. Alors maintenant, je crois que c'est l'heure de manger, déjeuner. Merci.